Chapitre 71. Achille a envie de mourir. L'air du Tartare est si toxique, ses poumons sont si enflammés, ses yeux si larmoyants, sa peau et ses tripes si ravagées, comme s'il allait exploser et imploser en même temps. La monstrueuse Océanide lui empoigne les côtes avec une telle force, ses perspectives d'avenir sont tellement anéanties qu'il regrette de ne pas pouvoir mourir afin d'en finir une bonne fois pour toutes. Mais les moires quantiques lui refusent ce salut. Sa salope de mère immortelle, cet enfoiré de Tétis qui avait juré un amour éternel à Pélée, qu'il a toujours honoré comme son père, pour le tromper avec Zeus comme la première traînée venue, l'a exposé au feu céleste et transformé sa mort en point de singularité quantique. Seule la flèche de Paris pourrait le tuer, Paris qui est aujourd'hui mort et incinéré, et un point c'est tout, comme on dit. Donc, il souffre et tente de se concentrer sur ce qui se passe au-delà de la sphère de douleur qui se referme lentement sur lui. Les trois gigantesques filles d'Océan, Asia, Panthéa et Ion, avancent d'un bon pas dans la pénombre délétère en direction d'une tache de lumière, sans doute un volcan en éruption, Asia serrant Achille dans son gros poing suant. Lorsqu'Achille arrive à ouvrir les paupières pour entrevoir le paysage à travers un rideau de larmes, un effet de la nocivité de l'air et non d'une quelconque défaillance de sa part, il distingue des pics escarpés, tels celui que les trois océanides sont en train d'enjamber, des cratères rougeoyants, des crevasses emplies de lave et de monstres difformes, une escorte de scolopendres géantes, sans doute apparentées aux guérisseurs d'Olympos, des silhouettes confuses, peut-être d'autres titans, qui s'agitent en beuglant dans les ténèbres, et un ciel parcouru de nuages liserés d'orange, d'éclairs rageurs et autres phénomènes électriques. Soudain, la géante nommée Panthéa demande
« Est-ce la forme voilée que nous cherchons qui est assise sur ce trône d'ébène ?»
Et Asia lui répond d'une voix tonitruante évoquant une avalanche de rochers dans une ravine. Achille n'a pas la force de plaquer ses oreilles sur ses mains rongées par l'acide.
« C'est lui ! Le voile est tombé !»
Panthéa enchaîne.
« Je vois une puissante obscurité emplissant le siège du pouvoir et des rayons crépusculaires sont dardés autour d'elle, comme la lumière du soleil de midi, indiscernable et sans forme. Il n'y a ni membre, ni linéament, ni trait. Cependant, nous sentons que c'est un esprit vivant !»
Démogorgon prend alors la parole. Et Achille enfouit son visage au creux de la paume rugueuse d'Asia dans une vaine tentative pour étouffer les assauts subsoniques de cette voix toute puissante.
« Demande ce que tu veux savoir, Océanide !»
Asia tend une main où gît un Achille pris de convulsion.
« Peux-tu nous dire de quelle forme et de quel genre est cette chose que nous avons capturée ? Cela ressemble davantage à une astérie qu'à un homme !» Et cela couine et frétille comme un animal!
Nouveau rugissement de démon Gorgon.
Ce n'est qu'un homme mortel, quoique rendu immortel par une erreur du feu céleste. Il se nomme Achille, et il est bien loin de chez lui. Avant ce jour, nul mortel n'est descendu dans le Tartare.
Ah!
Fait Asia. D'un geste négligent, elle pose Achille sur un rocher brûlant, comme s'il n'était qu'un jouet ayant cessé de l'intéresser. Achille sent la chaleur l'assaillir de toutes parts, et lorsqu'il ouvre les yeux, il constate que si son champ visuel s'est agrandi, c'est parce que les flots de lave coulent autour du rocher où il se perche, et il est aussitôt saisi d'horreur. Puis il se tourne vers Démogorgon assis sur son trône. Ce dernier domine les volcans environnant de toute sa majesté, et la forme voilée qu'il occupe mesure plusieurs stades de haut. Et en découvrant son aspect, il est saisi d'une envie de vomir, qu'il assouvit sur le champ. Aucune des trois océanides ne semble remarquer sa réaction.
« Que peux-tu dire d'autre ?»
demanda Asia à la gigantesque forme.
« Tout ce que tu oseras demander !»
Qui a fait le monde vivant ?
Interroge Asia. Achille a déjà décidé que c'était la plus bavarde, sinon la plus futée de ces trois idiotes d'Océanide.
Dieu !
Qui a fait tout ce qu'il contient ?
Poursuit Asia.
Pensée, passion, raison, volonté, imagination !
Dieu ! Dieu tout-puissant !
Achille décide que ce démogorgon est un esprit de peu de mots. Et de peu de pensées, si tant est qu'il s'en trouve dans son crâne, si tant est qu'il est un crâne. Achille donnerait tout ce qu'il possède pour avoir la force de se redresser, de tirer son épée du fourreau et de saisir le bouclier passé dans son dos. Il commencerait par tuer ce démogorgon, puis il infligerait à ses trois océanides une mort des plus lentes.
Qui a fait ce sentiment qui, lorsque le souffle du printemps en une trop rare visite, où la voix d'un être aimé se fait entendre dans la jeunesse solitaire,
demande Asia de sa voix à la fois tonitruante et éraillée.
Remplis les yeux languissants de larmes qui, en tombant, obscurcissent les regards radieux des fleurs qui ne pleurent pas et fait de la terre peuplée une solitude quand il ne revient plus.
Achille vomit une nouvelle fois. Cette fois-ci, il s'agit d'un commentaire esthétique plutôt que d'une réaction physiologique. Il décide de commencer par oxyre les océanides. S'il pouvait tuer plusieurs fois cette salope d'Asia, il en serait enchanté. Il envisage un instant de lui évider le crâne pour y aménager un logis, les deux orbites pouvant faire d'excellentes fenêtres.
« Dieu plein de miséricorde !»
déclame Démogorgon. Il n'existe pas de terme grec équivalent à « idem », mais Achille suggère mentalement à Démogorgon d'en inventer un d'urgence. L'Achéen n'est nullement surpris que les océanides et l'esprit informe captif des brumes du Tartare s'expriment en grec ancien. Il s'agit certes d'étranges créatures, voire de monstres, mais, dans le monde d'Achille, même les monstres entendent le grec. Ce ne sont pas des barbares, après tout. Asia pose une nouvelle question, aussi énervante qu'une gamine de 2 ans, ayant compris qu'il suffisait de répéter « pourquoi » sans se lasser pour faire déblatérer un adulte.
« Et qui a fait erreur, folie, crime, remords ? Qui, des grands anneaux de la grande chaîne des choses ?» Sur chaque pensée dans l'esprit de l'homme, pèse et se traîne lourdement, et chacun chancelle sous le fardeau du côté de la fosse de la mort. L'espérance abandonnée, et l'amour qui se change en haine, et le mépris de soi-même plus amer à boire que le sang. La peine dont le langage méprisé est familier et plaintif, et les cris perçants jour après jour et...
Elle s'arrête là. Achille espère qu'est survenue une sorte de cataclysme tartaresque qui va détruire ce monde et engloutir Asia et ses deux sœurs telles des sucreries tartinées de miel dans un festin de myrmidons. Mais il ouvre les yeux et constate la présence d'un disque de lumière étincelante qui vient teinter de blanc la pénombre rouge. Un trou de brane. Une silhouette à peine humaine se découpe au centre de ce disque lumineux. On dirait certes un homme, mais un homme qui serait composé de sphères métalliques, une sphère pour la tête, ce qui semble à peu près normal, mais des sphères aussi pour le torse, les bras tendus et les jambes vacillantes. Seuls les pieds et les chevilles, gainés dans un métal plus léger que le bronze, ont une apparence vaguement humaine. La chose se rapproche et 2 faisceaux aveuglants jaillissent de ses épaules sphériques. Puis c'est un trait rouge vif, aussi fin qu'une javeline, qui surgit de sa main droite pour frapper les océanides dont la peau grésille et se couvre de cloques. Elle recule d'un pas dans la lave bouillonnante, de toute évidence invulnérable à ce rayon écarlate, mais incommodée par l'éclat incandescent qui se déverse à travers le trou de brane.
Bon Dieu de merde, Achille ! Tu comptes rester longtemps à te tourner les pouces ?
C'est Héphaïstos. Achille comprend que ces sphères forment en fait une tenue protectrice, un agrégat de globes d'où émergent des bottes de fer et des gants encombrants. Il porte sur le dos une grosse boîte fumante qui lui permet sans doute de respirer, et la sphère entourant sa tête est transparente comme le verre. Achille distingue son grotesque visage barbu à la lueur de ses projecteurs et de son rayon laser. Il réussit à émettre un faible couinement. Les haut-parleurs de la tenue protectrice enlaidissent encore le rire d'Héphaïstos.
L'atmosphère du lieu te paraît pesante, hein? Tiens, enfile ça. C'est une thermopeau. Ça t'aidera à respirer.
Le dieu du feu et des artifices lance près de lui une tunique effroyablement légère. Le héros tente de se redresser, mais l'air est trop lourd, trop brûlant. Il ne réussit qu'à frémir, à tousser et à vomir.
Eh merde!
Fait le dieu boiteux.
C'est bien ce que je craignais. Il va falloir que je t'habille comme un bébé. Tiens-toi tranquille. Abstiens-toi de chier ou de dégobiller pendant que je t'enlève cette armure pour te passer ta grenouillère.
10 minutes plus tard, 10 minutes ponctuées de jurons divins aussi sulfureux que les vapeurs volcaniques, Achille se tient bien droit sur son rocher aux côtés d'Héphaïstos, recouvert d'une thermopeau dorée sur laquelle il a repassé son armure, respirant sans problème grâce à la membrane plaquée sur son visage, un masque osmotique, a dit le dieu nain, brandissant un bouclier rongé par l'acide et une épée encore étincelante, les yeux fixés sur la masse titanesque mais indistincte de Démogorgon, à nouveau persuadé de son invulnérabilité et pas qu'un peu furax. Il espère ardemment qu'Asia l'Océanide va repartir dans sa litanie de questions afin qu'il ait une excuse pour la vider comme un poisson.
Démogorgon,
lance Héphaïstos, son haut-parleur réglé au maximum.
Nous nous sommes déjà rencontrés il y a plus de 1900 ans, lors de la guerre des Olympiens contre les Titans. Je m'appelle Héphaïstos.
Tu es le boiteux.
Ouais, tu te souviens de moi, c'est sympa. Achille et moi sommes venus vous voir, toi et les Titans, Cronos, Rhea, tous les anciens, afin que vous nous veniez en aide.
Démogorgon n'aide point de simples dieux immortels.
« Non, évidemment pas !»
dit Héphaïstos, dont la voix résonne à un volume 100 fois supérieur à l'ordinaire.
« Merde ! Achille, tu prends le relais ? Je ne m'en sors pas, c'est comme si je parlais à mon cul !»«
Cette masse de néant peut-elle m'entendre ?»
demande Achille au petit dieu.
« Je t'entends !»
Achille se tourne vers le ciel, braquant ses yeux sur les nuées tourbillonnantes à côté du non-visage amorphe du néant, qui se dresse au-dessus de lui.
Quand tu dis Dieu, Démogorgon, parles-tu de Zeus?
Quand je dis Dieu, je parle de Dieu.
Alors tu dois parler de Zeus, car le fils de Cronos et de Rhea rassemble en ce moment même les dieux au sommet d'Olympos pour leur annoncer que Zeus est le dieu des dieux, le maître de la création, le dieu de cet univers et de tous les autres.
Alors il ment. « Ou bien c'est toi qui mens, fils de l'homme. Dieu règne, mais pas à Olympos. »«
Mais Zeus a réduit en esclavage tous les mortels et tous les autres dieux !»
insiste Achille, dont la voix, transmise par le haut-parleur de la thermopeau, mais aussi par un émetteur radio, rebondit sur les flancs et les crêtes du volcan.
« Tous les esprits qui obéissent aux choses mauvaises sont esclaves. Tu sais si Zeus est tel ou non ?»
« Je le sais !» répond Achille. « Zeus est un fils de pute bouffi d'avidité, sans vouloir offenser Rhea si elle m'écoute parmi les ombres. C'est aussi un lâche et une brute épaisse. Mais si tu le dis Dieu, alors il régnera pour l'éternité sur Olympos et sur cet univers !»«
J'ai parlé comme tu parles, car Zeus est le plus élevé des êtres vivants. »«
Qui est le maître de l'esclave ?»
demande Achille.
« Excellent !»
murmure Héphaïstos.
« Ça, c'est trouvé ! La ferme !»
fait Achille. Démogorgon se met à gronder. Achille croit tout d'abord à une nouvelle éruption volcanique, puis le grondement se fait moduler, devenant un discours.
« Si l'abîme pouvait vomir ses secrets, mais la voix est impuissante, la profonde vérité est sans image. Car à quoi servirait-il de t'inviter à regarder le monde qui roule ?» De t'inviter à parler destin, temps, occasion, hasard et changement. À ces choses tout est soumis, excepté l'éternel amour et la perfection du quiet.
Comme tu voudras, réplique Achille. Mais au moment où je te parle, Zeus est en train de se proclamer maître de la création. Et il ne tardera pas à exiger de toute la création en question, et pas seulement du petit monde qui s'étend au pied de l'Olympe, qu'elle lui rende hommage à lui et à lui seul. Adieu, Démogorgon.
Achille tourne le dos à la masse amorphe qui s'étend jusqu'aux cieux, agrippant par le bras le dieu artificier caparaçonné dans ses bulles qui s'est mis à bafouiller.
Halte ! Achille, fils virtuel de Pélée, fils actuel de Zeus, coupable potentiel des crimes de parricide et de déicide. Attends.
Achille fait halte, se retourne et attend, Héphaïstos à ses côtés. Les Océanides tremblent de tous leurs membres et se voilent la face comme redoutant une pluie de cendres.
J'invoquerai les titans enterrés dans leurs cavernes et leurs crevasses. Je les arracherai au recoin où ils se sont tapis. J'ordonnerai aux immortelles sœurs de les amener à moi.
Dans un vacarme qui ridiculise les bruits entendus jusqu'ici, la roche entourant le trône de Démogorgon se déchire au sein de la nuit purpurine, l'éclat de la lave se fait plus intense, plus profond, un arc-en-ciel de couleurs impossibles perce la pénombre du Tartare, et des chars grands comme des montagnes surgissent du néant, tirés par des animaux fort différents des cavales. En fait, ils n'ont rien de commun avec les cavales, et menés par des êtres aux yeux fous qui n'ont rien de commun ni avec les hommes, ni avec les dieux, et dont les yeux parfois luisent de terreur. Ces cochers ne doivent pas être contemplés par un mortel, aussi Achille détourne-t-il la tête. Sans doute serait-il mal inspiré de vomir sous son masque son ch'til.
Voici les immortelles sœurs que tu as demandées pour faire entendre tes arguments,
tonne Démogorgon.
Elles vont quérir ici Chronos et les siens.
Une série de bangs supersoniques déchire l'atmosphère, les océanides hurlent de frayeur et les chars disparaissent dans des anneaux de feu.
Eh ben,
fait Héphaïstos sur le canal radio. Son commentaire s'arrête là.
Maintenant, attendons. Dit Achille.
Il remet son épée au fourreau et passe son bouclier par-dessus son épaule.
« Ça m'étonnerait qu'on attende longtemps !»
dit Héphaïstos. L'air s'emplit à nouveau d'anneaux de feu, les chars géants reviennent par centaines, non, par milliers, et à bord de chacun d'eux se trouve une forme gigantesque, tantôt humaine, tantôt non.
« Voyez !»
dit Démogorgon.
« Difficile de faire autrement !»
commente Achille. Il se campe fermement sur ses jambes et remet en position de combat son splendide bouclier. Les chars des titans continuent d'affluer.